Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, Cinérama. J'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film Firebrand.
Bonjour Marine.
Bonjour Vincent.
Nous sommes sur la croisette pour la 76e édition du Festival de Cannes. Je te rejoins à la fin de cette première semaine. Il se trouve que là, il y a l'équipe du film Firebrand, le jeu de la reine, de Karim Aynouz, avec Alicia Vikander et Jude Law, qui montent les marches. Et puis nous, c'est l'occasion de te faire un passage de témoin, parce que toi, tu fais la première partie du Festival de Cannes, et moi, je vais faire la seconde. Et donc, moi, j'ai absolument rien à dire. Je viens d'arriver. Enfin, j'ai vu un film, celui de Justine Trier, j'en suis ravi parce que c'est un film exceptionnel, mais toi, tu as passé plusieurs jours ici.
Oui, tout à fait. Alors oui, ça fait donc une semaine que le Festival de Cannes bat son plein. Autant dire que je ne suis pas seule, puisque sur cette 76e édition, on accueille plus de 4000 journalistes, un chiffre qui a d'ailleurs été multiplié par 5 en 40 ans. Et en tout, c'est quand même 230 000 personnes qui vont passer par Cannes pendant son festival annuel, soit 3 fois la population de la ville à l'année. Et cette édition 2023, elle est d'ailleurs la première à se dérouler de façon, on va dire, totalement normale depuis le Covid. Par ailleurs, environ 10 000 accréditations environ auraient été refusées pour cette édition très dense, avec encore plus de films, plus de séances. Et donc beaucoup de monde, donc qui dit plus de monde dit plus de pression. Plus de stress également, ce qui agite la croisette dernièrement. C'est la vidéo de l'altercation entre un policier municipal et Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes. Thierry Frémaux, à qui un policier a demandé de s'arrêter alors qu'il roulait à vélo sur le trottoir. Donc vraiment une scène digne de Fast and Furious. Sur le trottoir, donc devant le Carlton, le policier l'aurait fait s'arrêter un peu brutalement. S'en est suivie une violente dispute qui a été filmée et largement diffusée et regardée ensuite. Regardée plus de 2 millions de fois. Donc, c'est-à-dire que la vidéo a eu plus finalement de spectateurs que la plupart des films en compétition officielle lorsqu'ils sortiront. Après, il paraîtrait aussi que peut-être le policier et Thierry Frémaux n'étaient pas d'accord en fait sur la symbolique profonde des scènes expérimentales que l'on peut voir dans le film Zone of Interest de Jonathan Glazer, d'où cette violente prise de bec, parce que c'est Cannes, beaucoup de cinéma, beaucoup d'intensité et des débats houleux sur les films. Zone of Interest qui est par ailleurs très bien placé pour la Palme d'Or. Alors je sais qu'habituellement je ne suis pas la meilleure des oracles à ce sujet, chaque année systématiquement je me trompe, mais le public a été conquis et moi aussi, même si c'est paradoxal, je sais, mais je ne reverrai pas ce film une seconde fois. Le film raconte la terrifiante banalité du quotidien d'une famille de nazis dont la maison jouxte le camp de Auschwitz. À la différence de la réalisation de Under the Skin, son précédent film, qui avait une dimension épidermique, organique, au plus près de ses personnages, la caméra de Zone of Interest reste en permanence à distance. On ne verra jamais l'intérieur des camps. Tout au plus distingue-t-on la fumée en arrière-plan, des cendres qui volent en l'air, des coups de feu au loin. C'est un film qui demande au spectateur d'être actif, de réfléchir aux détails, au sens des images qu'il voit. C'est un film difficile, qui ne nous fait pas passer un bon moment. On pourrait même dire que c'est une sorte de feel-bad movie. Et pourtant, eh bien, je n'ai vu personne se lever pour quitter la séance de projection. En revanche, c'est Martin Amis qui nous a quittés pour de bon, l'auteur du livre dont est adapté Zone of Interest, qui est décédé, coïncidence étrange, le jour de la projection. Travail sur le son quasi expérimental, mise en scène radicale, sujet sensible, interprétation impeccable. Zone of Interest a les qualités requises pour remporter la palme. Contrairement à Black Flies de Jean-Stéphane Sauvert, un drame avec Sean Penn qui est clairement la seule raison pour laquelle le film est en compétition officielle. Une accumulation de misère sociale, une surenchère de trash dans ce film survolté et agaçant qui suit les nuits difficiles de deux ambulanciers qui interviennent dans les pires bas-fonds de New York. Rien ne nous sera épargné. Accouchement de mère héroïnomane, suicide, corps décomposé, cervelle explosée. Le film fait beaucoup penser à Tombeau ouvert de Scorsese. Et il ne sort pas grandi de cette comparaison, vraiment. Scorsese, qui était présent avec Leonardo DiCaprio pour Killers of the Flower Moon, son premier western. À 80 ans, il était temps. Comme souvent chez le réalisateur américain, il y a encore une impressionnante distribution hein, qui fait la part belle aux femmes. C'est pas vrai. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, non, et je suis mauvaise langue, Lily Gladstone, une actrice amérindienne, dans ce film que je n'ai pas vu, hein, que je n'ai pas pu voir contrairement aux autres, qui retrace une enquête non élucidée des années 20 et qui a été, enfin, dont la seule séance était littéralement prise d'assaut. La montée des marches pour Killers of the Flower Moon s'est faite sous la pluie, tout comme la projection le même soir hein, de Thelma et Louise de Ridley Scott au traditionnel cinéma de la plage, où il y avait quand même plusieurs dizaines de personnes qui étaient assises dans le sable, sous des parapluies, pour voir entre autres Brad Pitt dans le rôle qu'il a révélé. Autant vous dire que cette année, on n'a pas sauté dans la piscine en cours de soirée, comme le veut la tradition canoise, le taux d'humidité étant déjà suffisamment important comme cela. Des températures peu clémentes, réchauffées heureusement par quelques bons films, comme celui de Monia Chokri, mon coup de cœur, qui s'intitule « Simple comme Sylvain ». Dans la sélection, un certain regard, c'est un magnifique portrait de femme entre désir, sexe, amour, un portrait passionnant, habité de bout en bout, et autre portrait de femme juste et poignant, Le Retour de Catherine Corsini, qui après polémique a été réintégrée en compétition officielle. Pour rappel, hein, des mails anonymes ont prétendu que les comédiennes adolescentes du film avaient été victimes de harcèlement sexuel sur le tournage, sans que la réalisatrice n'intervienne. Des faits que les principales intéressées ont pour le moment totalement démenti. Des comédiennes qui jouent dans le film deux adolescentes noires dont la mère revient en Corse. Premiers amours, racisme ordinaire, secret de famille, rivalité sociale. Le Retour est un film réussi, même si il est assez peu probable qu'il reçoive des prix. Et en parlant de retour, eh bien certains ont eu un peu de mal à rentrer chez eux, puisque à l'aéroport de Cannes-Mandelieu, des militants d'extinction rébellion ont empêché des jets privés de décoller. Les avions, il faut quand même bien le dire, sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre sur le festival de Cannes. L'association a envoyé des petites voitures télécommandées munies de fumigènes sur le tarmac pour empêcher le décollage des avions. Une idée aussi intelligente finalement que mignonne. Peut-être que les militants l'ont trouvé dans le Livre des Solutions, le nouveau film de Michel Gondry, présenté à la quinzaine des cinéastes et qui met en scène Pierre Niney. Premières actions de protestation donc pour un 76e festival qui avait commencé sous la menace de mouvements sociaux et qui réserve sans doute encore pas mal de surprises.
Et on peut rebondir très rapidement sur ces histoires, parce que ça fait deux fois, avant de partir à Cannes, tu parlais déjà de ce côté éco-responsable. À noter que nous, journalistes, quand on s'accrédite, on fait une taxe de 20 euros hein, pour tout ce qui est... La prise en compte de l'éco-responsabilité du festival. Donc peut-être qu'en mettant moins de jets aussi, il serait dans cette fenêtre. Merci Marine, donc tu repars de Cannes. À moi maintenant les films et puis les petites files d'attente hein, pour assister eh bien, au reste de la compétition de cette 76e édition du Festival de Cannes qui continue ici sur la Croisette avec donc la montée des marches du film Firebrand, le jeu de la reine.
Blue eyes.
Alors pourquoi écouter Pete Gervais? Eh bien parce que c'est le générique de fin de Firebrand, le jeu de la reine, donc le film de Karim Aynouz avec Alicia Vikander et Jude Law en compétition pour cette 76e édition du Festival de Cannes.
This is Cinerama.
Le Festival de Cannes.
Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose.
Oui, après le passage de témoin avec Marine, hein, qui a quitté Cannes, alors on fait un petit bond en avant dans le festival, car j'ai la charge de vivre la dernière semaine de la 76e édition, qui n'a pas montré grand-chose hein, pour l'instant, me semble-t-il. Alors nous sommes mardi, et je vous parle pendant que l'équipe du film de Marco Bellocchio monte les marches pour le film L'Enlèvement, alors ça se passe un peu loin. Le film que je vais aller d'ailleurs regarder sans le smoking dans une autre salle un petit peu plus tard. Alors comment juger les deux jours et demi passé sur la croisette? Alors dès mon arrivée, le Justine Triet, Anatomie d'une chute, qui sortira fin août, m'a fortement impressionné par la qualité de son scénario, la justesse du propos et le jeu des acteurs. La mise en scène est imparable pour un film de procès qui se transforme petit à petit en l'examen d'un couple devant les yeux de leur enfant. Alors j'espère que le film aura un prix, je pense qu'il peut intéresser le président du jury, même si la réalisatrice française n'est pas dans une veine politique. Un film plus engagé est celui de Karim Aynouz, qui présente en compétition Le Jeu de la Reine, soit Firebrand en version originale. Un film en costume et que l'on peut comparer au film d'ouverture du Festival de Cannes, Jeanne Dubarry de My Wen, car là aussi il est question d'une femme aux prises avec son roi. Mais c'est plus une favorite, hein, mais une reine qui est la sixième épouse d'un roi britannique, capable de trancher des têtes ou d'empoisonner. C'est ce qu'il a fait avec ses précédentes épouses. L'enjeu de ce film est non seulement l'aspiration à l'émancipation de cette reine, mais aussi de tout un peuple, car elle soutient la réforme protestante qui prône la traduction de la Bible dans la langue du peuple. Alors contrairement au Louis XV campé par Johnny Depp ici, le roi interprété par Jude Law a un vrai rôle, il est vraiment incarné. Le Jeu de la Reine pourrait avoir quelque chose. La date de sortie, elle, n'est pas encore connue. Parmi les autres films de la compétition que j'ai pu voir, rien ne sort de l'ordinaire de leurs auteurs, j'ai envie de dire. Je pense au dernier film de Aki Kaurismäki, qui dans sa veine tragicomique raconte comment un homme et une femme sans le sou vont se rencontrer. Je pense aussi à Jessica Hausner, l'Autrichienne est celle qui a le plus de points communs avec le président du jury, raison pour laquelle elle n'aura pas la palme d'or, il me semble. Dans Club Zero, la réalisatrice nous embarque dans un monde vaguement dystopique où une enseignante Miss Novak rejoint un lycée privé où là-bas elle initie un cours de nutrition avec un concept innovant bousculant les habitudes alimentaires. Il s'agit de l'alimentation consciente. Voilà, ça encore, voilà. Elle accroche le petit groupe d'élèves en expliquant que cela va permettre de mieux manger, moins manger et puis sauver la planète, mais petit à petit, l'enseignante vire au comportement sectaire. L'effort de la réalisatrice est de dépeindre un monde, le nôtre, qui ne saurait plus quoi faire de tout son savoir. Elle pointe également une élite coupée du monde. Alors dans Club Zero, les parents sont incapables de comprendre leurs enfants et d'apporter des solutions, ce qui permet à l'enseignante de s'engouffrer dans le sectarisme. Chose amusante, hein, il y a un avertissement qui déconseille le film aux personnes ayant souffert de troubles de l'alimentation. Et il y a sans doute une des pires scènes que j'ai jamais vues au cinéma depuis longtemps, hein, qui concerne le vomi, voilà, qu'une des lycéennes va manger pour prouver à ses parents que si il est question de manger, de simplement manger, on peut manger n'importe quoi comme on le fait tout le temps. Mieux vaut ne pas avoir le ventre plein. La sortie du film, elle, n'est pas encore annoncée. De son côté, Wes Anderson ne déroge pas au dispositif qui fait sa marque au moyen d'une lumière travaillée, de couleurs pimpantes, de cadres léchés, de mouvements de caméra innombrables et d'un récit ultra guidé. Avec Asteroid City, on est plongé dans ce qui nous est donné comme un récit inventé de toutes pièces en 1955 avec des ados scientifiques en herbe à qui on va remettre des prix pour des inventions vraiment exceptionnelles et puis des adultes qui les accompagnent en plein désert du Nevada. Alors le film se nourrit de fantaisie et d'imaginaire, même s'il est délicat vraiment de trouver un propos. On peut oublier le prix d'interprétation aussi, hein, parce que les comédiens ne sont jamais dans la mesure. Le casting est le plus riche de tous les films de la croisette. Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Adrian Brody, Edward Norton, William Defoe, Marco Ruby, enfin voilà, et j'en passe. C'est vraiment un pur bonheur. Le film sort le 21 juin, donc on en reparlera à ce moment-là. Alors il me semble avoir fait le tour des films en compétition que j'ai pu voir. J'ai pu aussi voir deux films hors compétition, un film catastrophe coréen très décevant et Acide de Juste Philippot qui, avec Guillaume Canet, un type révolté contre le système, eh bien, va devoir veiller sur sa fille alors que des pluies acides s'abattent sur la France, décomposant tout sur leur passage. C'est un film vraiment cauchemar, mis à part quelques incohérences. Le film est très bien construit, tout en tension, et ne nous épargne pas grand-chose. Contrairement au film coréen Projet Secret, qui avance lui avec des poncifs jusqu'à nous faire rire de tant de simplicité, de naïveté. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire au milieu du Festival de Cannes. Alors on a croisé peu de monde, tout simplement parce qu'on est allé beaucoup dans les salles, mais quand même, avant de partir à Cannes, j'ai pu croiser Charles Berling, qui lui était présent sur la croisette peu de temps avant. Il y allait juste une soirée. Je lui ai demandé si c'était un événement qu'il ne manquait pas.
This is Cinérama.
C'est un rendez-vous que je manque beaucoup. Non, pas du tout. Je suis pas. Non, mais là, il y avait un film qui était en sélection officielle, hors compétition. Le film sur Florence Artaud. J'aime beaucoup Florence Artaud, donc j'y suis allé. Un, je l'avais pas vu, donc comme ça m'a permis de le voir sur la plage, grand écran et tout. Et puis. Mais sinon, ah non, il y a plein de fois où je n'y vais que si je dois y travailler quelque part. Ça ne veut pas dire que j'aimerais pas y aller 10 jours et puis voir plein de films. J'aimerais être un festivalier. C'est juste que je suis happé par beaucoup de suractivité, je fais beaucoup de choses, donc j'ai peu. Mon rêve, ça serait qu'on. Alors j'ai réussi à le faire quand un an avant on vous dit vous allez être jury à tel endroit. Bon. Donc là, je l'ai déjà fait. Quand je le fais, à ce moment-là, bah, j'ai bloqué les dates. Et puis là, c'est bon, je suis jury. Et donc là, j'en vois plein. Mais au fond, je me suis toujours dit, tiens, j'aimerais bien faire le festivalier, même une semaine à Cannes et voir plein de films. C'est merveilleux. Hein. Je suis d'accord. Moi, là, c'est juste une question de temps.
J'ai su que vous étiez à Cannes parce que j'ai vu des articles dans Voici où on parlait de votre... Vous avez fait forte impression avec votre col sur les yeux.
Oui, parce que j'avais pas d'enjeu, donc les marches, c'est toujours rigolo. Alors, c'était par hasard, hein. Mais c'était à la fois un hasard et en même temps, comme je tourne Romain Gary, j'ai redécouvert au cours du tournage, là, en avril, le col, les années 70. Et à l'époque, les garçons se mettaient beaucoup de col, comme les filles. Aujourd'hui, c'est plus difficile. En tout cas, ça fait la preuve. Donc là pendant le tournage de Romain Gary, j'avais pris l'habitude, et alors la maquilleuse me dit je vous mets un peu de noir et tout. Je dis oh bah oui allez-y, tiens, comme j'étais. Et puis elle m'en a mis beaucoup, et puis là elle me dit j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. J'ai regardé, j'ai dit non mais c'est très bien. Les marches aussi c'est un peu c'est un peu le show quoi, donc moi j'aime bien faire l'idiot sur les marches. Et là, c'était l'occasion. Ouais. Et c'est réussi, apparemment.
Voilà, c'était Charles Berling que j'ai pu rencontrer juste avant de partir à Cannes. Et lui, il en revient. On referme cet épisode cannois. Et la prochaine fois qu'on reparle de Cannes, eh bien, on aura les résultats.
This is Cinérama.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
C'est irrésistible, en effet.
Guillaume et Manu n'ont pas fait le déplacement à Cannes, ils nous parlent de films visibles en salle. On commence avec Face cachée.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Tout le début de Face cachée intrigue. La mise en place, habile et surtout opaque, n'installe pas les enjeux clairement. On n'enferme pas le film dans un genre défini, préférant distiller une atmosphère trouble. Alors on y fait la connaissance de Rose, étudiante en médecine vétérinaire. En 2-3 plans, ce personnage taiseux et au départ énigmatique accomplit ses tâches quotidiennes de manière dépassionnée. Alors comme tourmentée par une révélation, récente ou pas, hein, on ne le saura jamais, hein, elle se décide à contacter sa mère biologique, Hélène, une actrice à succès. Alors ce qui nous vaut une étrange séquence de vampirisme qui induit le spectateur en erreur sur le genre, l'orientation du métrage. Hélène ne souhaite pas développer une relation avec sa fille, restant très en retrait et même fuyante. Évidemment, alors pas besoin d'être un génie pour deviner les raisons de ce refus lors d'une première rencontre, tout en non-dit insistant. Très vite, on comprend qu'un lourd secret de polichinelle dans le tiroir empêche l'actrice d'afficher une affection pour sa fille. Pourtant, elle va céder devant la détermination de Rose et lui dire ce qui s'est passé 20 ans auparavant. Suite à cette révélation que seule une âme innocente du siècle dernier n'aurait pas deviné, Rose, qui s'appelait donc à la naissance Julia, décide d'aller à la rencontre de son vrai père, un géologue reconnu, personnage charismatique, un peu too much pour être sincère. Alors, dès la première confrontation entre la mère et la fille, tout le climat mystérieux et même flottant des premières minutes s'évente pour laisser place à un psychodrame sur fond de vengeance teinté de polar. Alors, les réalisateurs, Joe Lawlor et Christine Molloy, auteurs du curieux, mais bon, un peu chichiteux, Hélène Autopsie d'une disparition, reviennent avec un film bien dans l'air du temps, pamphlet féministe sur la toxicité masculine, dessinant notamment le portrait d'un homme qui, après avoir commis l'irréparable, a continué à mener tranquillement une vie de famille épanouie, alors que les deux victimes souffrent depuis une vingtaine d'années. Alors le sujet est en soi inattaquable et important, d'autant que les cinéastes ne se focalisent pas sur la vengeance, mais questionnent les notions d'identité, de vie manquée ou de vie alternative, de blessures profondes et inconscientes liées à un traumatisme. Alors tout ça est bien joli, mais le film affiche quand même un gros problème d'écriture. Tout d'abord, l'antagoniste, le père, souffre quand même d'une caractérisation tellement forcée qu'il semble sortir d'une publicité préventive sur les dangers de l'homme alpha, du prédateur dans toute sa triste splendeur. D'ailleurs, il a un peu des allures, par son côté sympa et séducteur, à Richard Gere. On assiste à une séquence d'ailleurs très maladroite où il veut se taper sa fille. Un peu plus de trouble et de subtilité n'aurait pas fait de mal à un film qui enfonce le clou du symbolisme lourdeau avec une voix off poético-existentielle qui surligne constamment ce qui se passe à l'écran. Alors, Face cachée est un film à sujet, ce qui en soi n'est pas un problème. Molloy et Lawlor tentent d'y apporter un style, de ne pas servir une réalisation sommaire en forme de tract. Louable effort, mais qui se révèle plus crédible à l'écran. La mise en scène, pour appuyer le ton mélancolique, se définit par une succession de plans souvent large, très bien cadré, et de lents mouvements de caméra oppressants, enrobés par une musique omniprésente et sentencieuse entre du Arvo Part et du Lisa Gérard. Alors l'influence un peu néfaste de Terrence Malick plane sur ce thriller intime qui échoue à nous faire ressentir la souffrance des personnages par son esthétique artificielle, ses dialogues surécrits et la dimension quand même programmatique du récit. Bref, un film décevant malgré de belles promesses qui est quand même racheté alors, par les deux comédienne principale, Anne Skelly et Orla Brady, et les belles images mettant en valeur la campagne irlandaise, parce que j'avais oublié de le signaler, il s'agit bien d'un film irlandais.
Face cachée est en salle depuis le 24 mai. Autre film dont nous vous parlons et qui n'est pas à Cannes, La Maleta.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
D'après le légiste, c'était une fille.
Et il n'y aura pas d'enquête.
Preuve que le temps où une carrière à la télévision signifiait une popularité limitée et était vue comme une voie de garage pour acteurs de seconde zone est définitivement terminée, La Maleta de Jorge Dorado se vend aujourd'hui en très grande partie sur le nom de son interprète principal, Alvaro Morte, qui, à la suite de telenovelas et autres séries peu remarquées à l'international, va se faire connaître pour son rôle du professeur dans La Casa de Papel, l'énorme carton de Netflix en 2017. Grimé sur l'affiche comme John Wick et dominant un décor à la teinte rouge, ce qui est un petit peu mensonger quand on va découvrir le fond du film, il est clairement la bonne raison d'aller voir La Maleta, un récit policier argentin qui vaut le détour, mais qui justement, à cause de multiples détours dans son intrigue, se coince un peu entre deux chaises. Alors pas de quoi toutefois bouder notre plaisir devant un polar qui sait rendre hommage à ses références et à entretenir un intérêt tout du long.
Je cherche une fille en particulier. C'est à propos du bébé.
Elle est réservée à des clients particuliers.
Je peux t'aider à savoir ce qui est arrivé à ta fille.
Vous êtes qui, vous ?
Le mystérieux Mario travaille à Madrid au bureau des objets trouvés. Alors mystérieux car il semble parfaitement se fondre dans un décor étonnant composé de rangées interminables d'objets jamais réclamés, tels des fantômes d'existence qui resteront à jamais virtuels pour lui comme pour les autres. Alors Mario est lui-même un de ces fantômes, on apprendra bien sûr plus tard pourquoi, qui préfère la compagnie silencieuse des objets inanimés à celle de l'entourage fait de chair et de sang et pourtant bien présent et désireux de prendre son pouls. Notre employé est régulièrement visité par Elena, une femme flic qui sait, qui se cache derrière sa longue barbe et qui désespère d'officialiser une relation avec lui. Manque de bol, il consacre tout son temps à son métier, à reconnecter les objets avec leurs propriétaires lorsque cela est possible. Et c'est ainsi que sa vie va prendre un tournant inattendu le jour où on lui ramène justement un objet qui a été jeté dans le but d'être oublié. L'objet, une mallette rouge, contient le squelette d'un enfant et quelques papiers, mais face à l'indifférence de la police à mener une enquête approfondie, Mario va s'impliquer plus qu'il ne devrait dans une histoire qui va se révéler être de plus en plus sombre et le faire plonger au cœur de la nuit madrilène. Mario s'inscrit dans une longue lignée de personnages taiseux et renfermés dans leur monde comme le Jeff joué par Alain Delon dans Le Samouraï. Alors ils partagent d'ailleurs le même compagnon, un oiseau en cage, symbole de leur solitude et de leur décalage avec le monde réel. Des images comme ça, La Maleta en comporte plusieurs, hein, qui permettent de comprendre et de cerner le caractère du personnage principal, mais au final de façon bien plus intéressante et riche qu'une longue séquence dialoguée et statique. Alors il y a une mise en place, hein, entre l'inanimé et l'animé qui, même si elle aurait pu être un petit peu plus poussée, nous éclaire sur la psyché, hein, de Mario, comme en témoigne la très intéressante idée dans les premières minutes du film de montrer la fascination de Mario pour l'équivalent d'un praxinoscope, hein, simulant le mouvement de la vie alors que ce personnage de grand solitaire est justement entouré d'objets immobiles. Il est le seul à leur donner un sens et donc une vie en soi, et il était donc tout désigné pour jeter un regard à nouveau humain sur des gens qui ont été déshumanisés par une organisation mafieuse réduite à l'état d'encombrant, de denrée qui permet de faire une monnaie d'échange dans un trafic sordide, ou encore de consommables de luxe dans ce qui n'est au fond qu'un hôtel de passe.
Moi, tout ce que je voulais, c'est que ma fille ait une vie normale.
Je peux pas te cacher ici éternellement.
Ils me retrouveront de toute façon. C'est juste une question de temps.
Bonjour, messieurs. On m'a dit qu'ici, je pouvais récupérer ce que j'avais égaré.
L'excitant postulat de base, hein, qui fait d'ailleurs un peu penser, hein, au début du génial roman Secret Show de Clive Barker, où un employé qui trie des lettres non distribuées va découvrir l'existence de toute une organisation secrète, n'est toutefois pas entièrement axé sur le mystère à révéler au grand jour. L'étude du personnage de Mario et pourquoi ses névroses vont le pousser à aller aussi loin seront également au centre d'une attention qui a du coup un rythme qui n'hésite pas à se reposer au moment où on imaginerait qu'un divertissement hollywoodien en ferait justement plus. Mais ce n'est pas plus mal, car les temps de pause, voire même les ellipses, hein, temporelles, permettent d'aller jusqu'au bout des symboles mis sur la table en début de métrage. On comprend donc mieux le titre d'origine, Objectos, soit objet, hein, plutôt que La Maleta, qui semblait tout aussi générique, mais qui en fait ne se concentre que sur un tiers de l'intrigue. De la vie et de l'humanité qui donne un relief à ce que l'on fait de nos possessions, c'est la belle réflexion à laquelle Jorge Dorado nous convie avec son agréable polar.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On retrouve Cinérama la semaine prochaine. Cette fois-ci, eh bien, on aura le palmarès de ce Festival de Cannes où nous sommes partiellement présents. Une partie de l'équipe a pu faire le déplacement sur la Croisette, mais l'autre partie est restée dans les studios. Voilà, c'était Cinérama. À la semaine prochaine.
Cinerama.